Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
You're a nightmare, Mr. Trump. You're a callous sexist stooge.
Bonjour à tous, c'est l'événement économique de la semaine et cela se passe sur le continent européen, le Forum économique mondial qui s'ouvre ce mardi à Davos en Suisse. Depuis 1971, il réunit des responsables politiques, des dirigeants de grands groupes, des journalistes et des intellectuels du monde entier pour débattre des problèmes de la planète et des solutions à y apporter. Mais cette année, dans cette station de sport d'hiver des Alpes, flotte comme un air de défi. Les dirigeants européens s'inquiètent des velléités protectionnistes du président Trump, chantre de l'America First, une visite qui met également le pays en ébullition. Plusieurs manifestations contre sa venue ont déjà eu lieu à Berne et ce mardi, jour d'ouverture du forum, la mobilisation sera de taille car des manifestations sont annoncées à Zurich, Berne, Lausanne, Genève et Davos. Reportage de Katia Michel.
Trump, restez chez vous. À l'appel des partis autonomes de gauche, des centaines de manifestants ont déjà clamé leur opposition à la venue du président américain au Forum économique de Davos. Et la pétition en ligne « Trump, vous n'êtes pas le bienvenu » a déjà recueilli plus de 13 000 signatures en 3 jours.
Il n'a rien à faire ici déjà. Il dit tout et son contraire, donc voilà. Oh non, au contraire, il va coûter certainement très cher en sécurité pour rien du tout. Rien que pour se faire voir, une fois de plus.
Son petit manège, il va faire son petit cirque habituel. On devra assumer le guignol de service.
Et quand Trump arrive, effectivement, ça se voit. Le président américain débarque dans la petite Suisse tranquille avec toute sa cavalerie. Des centaines d'agents des services secrets, des gardes du corps, des snipers postés sur tous les toits. Depuis plusieurs jours, des cargos acheminent des tonnes de matériel, dont des hélicoptères, des dizaines de véhicules et 2 limousines blindées équipées de réserves d'oxygène et de poches de sang. 9 millions de francs, c'est le coût du dispositif de sécurité. Qui paye la facture? Les Suisses en partie. Les jeunes socialistes avaient demandé au gouvernement de s'opposer à la venue du président américain. Pour Samuel de Vargas, secrétaire général de la jeunesse socialiste vaudoise, le sexisme et la haine n'ont pas leur place en Suisse.
Nous opposons à sa venue car Trump ne vient pas pour apaiser les tensions. Comme il l'a dit il y a quelques jours, America First, donc cela signifie clairement qu'il vient pour imposer la supériorité américaine et non pas dans une optique de dialogue. Et c'est cela que nous déplorons. Trump représente aussi le racisme et le sexisme. Il a tenu des propos, ça fait depuis en fait même avant son entrée à la Maison-Blanche, qui tient des propos tout simplement haineux envers des minorités racistes, sexistes. Et en fait, s'opposer à sa venue, c'est aussi protester contre les propos qu'il tient. Il a eu des propos très forts à l'encontre de certaines minorités des pays d'Afrique récemment. Et je veux dire, c'est aussi le rôle du Conseil fédéral de pointer du doigt ces éléments et de critiquer. Parce que je crains que le Conseil fédéral baisse le dos en acceptant tout ce que Trump va dire à l'égard des Suisses.
Du côté du gouvernement, en effet, la venue de Trump est plutôt perçue comme une aubaine. La visite d'un président américain n'est pas si courante. La dernière fois, c'était Bill Clinton, il y a 18 ans. Alors pas question de fâcher cet invité de marque. Mais surtout, Berne redoute de voir les centaines d'entreprises américaines installées en Suisse reprendre le chemin des États-Unis suite aux annonces de Donald Trump sur la réforme fiscale américaine. Une crainte formulée par le ministre de l'économie, Johann Schneiderman lui-même, à la télévision publique alémanique.
Oui, les annonces d'allègement fiscal que Trump a faites aux entreprises nationales et aux firmes à l'international ne sont pas sans danger pour nous. Il est possible que l'une ou l'autre de ces entreprises prenne la décision de retourner aux États-Unis suite à ces offres fiscale en se disant que la situation et que les conditions ne sont plus aussi avantageuses en Suisse. Nous sommes vigilants et c'est pourquoi nous devons avancer aussi vite que possible sur notre réforme de la fiscalité et la faire accepter par le Parlement.
Google, eBay, American Tobacco, la Suisse compte 645 entreprises américaines qui emploient 71 000 personnes. D'où l'intérêt de soigner ces relations. Mais pour l'instant, Donald Trump n'a pas prévu de rencontrer le président de la Confédération, Alain Berset. Sa visite n'est pas politique, ce n'est pas en chef d'État, mais en entrepreneur averti que Trump se déplace. L'occasion de présenter sa politique protectionniste baptisée American First, une politique très critiquée à l'étranger. Pour Donald Trump, le forum de Davos, c'est une formidable tribune pour se rabibocher avec le monde économique.
« C'est un domaine où malheureusement l'offre est loin de répondre à la demande. En Allemagne, les dons d'organes se font de plus en plus rares. Une évolution inverse de celle de la France où, selon l'agence de biomédecine, les dons d'organes ont progressé de 17% entre 2011 et 2016. La tendance devrait être renforcée par une nouvelle loi entrée en vigueur en janvier 2017 qui limite le pouvoir des proches. En France, un tiers des refus serait lié en effet à l'entourage. Alors pourquoi dans l'Allemagne voisine observe-t-on le phénomène inverse? Élément de réponse avec Déborah Berlioz.
En Allemagne, seules 800 personnes ont donné leurs organes pour des transplantations l'année dernière. En 2010, ils étaient encore 1300. Il faut dire qu'un scandale a largement entamé la confiance des Allemands dans le système de dons d'organes. En 2012, un médecin a été accusé d'avoir falsifié les données de ses patients pour leur permettre d'obtenir une greffe plus rapidement. Malgré tout, 81% des Allemands continuent d'être favorables aux dons d'organes. Les raisons de la pénurie sont davantage à chercher du côté de la législation. En Allemagne, il faut entreprendre une démarche très formelle pour donner ses organes. C'est le consentement explicite. En France, à l'inverse, le don est implicite depuis 40 ans. La nuance peut paraître subtile, mais les conséquences sont réelles. En 2016, presque 5900 organes ont été greffés en France contre 3000 en Allemagne. La Fondation allemande pour le don d'organes pointe également du doigt la mauvaise volonté de certaines cliniques. Prélever les organes nécessite du personnel, une salle d'opération, et coûte plus cher que de simplement appeler les pompes funèbres. Résultat, sur les 1260 hôpitaux habilités à prélever des organes, 165 n'en ont fourni aucun l'année dernière. La Fondation appelle donc le gouvernement à prendre des mesures car la situation est critique. 10 000 personnes sont en attente d'un greffon et l'année dernière, 937 personnes sont décédées faute d'une transplantation.
C'est une autre pénurie qui frappe Sarajevo 20 ans après la fin de la guerre. Les montagnes de Bosnie-Herzégovine sont riches de rivières et de lacs. Pourtant, la capitale subit depuis des années des coupures épisodiques d'eau potable, provoquant la colère des habitants. En cause, des canalisations vétustes et la corruption généralisée de l'administration de la ville, Laurent Gélin.
Depuis quelques années, les coupures d'eau sont régulières à Sarajevo, surtout la nuit. Mais cet automne, elles se sont aussi généralisées dans la journée. La qualité de l'eau semble également s'être détériorée, la diminution de la pression entraînant l'arrivée dans les éviers de terre, de bouts de métaux et de déchets accumulés dans les canalisations. De fait, les 1100 km du réseau, qui datent des années 1970, sont en très mauvais état, notamment depuis la guerre, et personne ne semble avoir envisagé de les remettre en état. Selon un rapport officiel du canton de Sarajevo, 100 millions de mètres cubes d'eau sont acheminés chaque année dans la capitale bosnienne, mais 75% de ce total est perdu en raison du délabrement des canalisations. Toujours selon ces données, 20 000 branchements illégaux auraient également été repérés pour alimenter des restaurants ou des stations de lavage auto, une situation catastrophique dont ne semble pas se préoccuper l'agence publique de l'eau, contrôlée depuis plus de 20 ans par des membres du Parti d'Action Démocratique, le SDA, au pouvoir dans la capitale. Les citoyens dénoncent par exemple une absence totale de planification des travaux et une corruption généralisée. Alors pour faire face à la grogne populaire, le président du canton, Elmedin Konaković, a présenté des mesures censées améliorer la situation, des contrôles pour lutter contre les raccordements abusifs et les mauvais payeurs, de nouveaux chantiers et une augmentation du budget de l'entreprise. Peu de chance, cependant, que les habitants de Sarajevo se séparent des bassines qu'ils utilisent pour stocker l'eau dans leurs appartements.
Eux transforment l'eau en vin. Deux vignerons qui viennent d'obtenir une nouvelle appellation d'origine protégée. Particularité, l'un est belge, l'autre néerlandais. Et l'appellation, c'est une première, ignore la frontière. Le Maasvallei Limburg devient ainsi la première AOP transfrontalière. Alice de Baptiste est allée à la découverte de ce cépage, cultivé sur les deux versants de la Meuse.
Nous sommes sur les rives belges de la Meuse. C'est ici que Carol Henkens a planté ses vignes. Son voisin néerlandais nous accompagne. Et si ces deux vignerons ont décidé de faire pousser du pinot gris, blanc, noir et du chardonnay dans la région, ce n'est pas un hasard. C'est sous nos pieds que la magie opère. Harry nous explique.
La Meuse a laissé de très bons et importants sédiments autour de son bassin. Cette région est reconnue pour son gravier. C'est de celle-ci dont il s'agit.
Les pierres que Karl vient de faire ricocher dans sa main forment une couche d'une épaisseur de 5 à 15 mètres. Au-dessus de ces galets, du limon s'est déposé, ce qui a transformé la Meuse-Vallée en une région propice à l'agriculture. Conscient du caractère très particulier des lieux donc, Harry et Karl ont travaillé pendant 8 ans sur ce projet d'AOP. Un travail de longue haleine. Le cahier des charges européen est très exigeant.
Il faut expliquer comment le sol a une répercussion sur la qualité du vin. Ça, c'est très important. La zone aussi, elle s'étend sur 50 km et 3 km de long. C'est vraiment très délimité. De telle route à telle route. Oui, là, nous avons été très stricts.
Il faut donc prouver qu'il y a un lien clair entre le terroir et le produit. Ici, ce sont ces petits graviers qui donnent un certain goût au vin. Mais l'AOP ne se limite pas à des critères géographiques, insiste Harry.
Cette AOP n'est pas seulement typique de la région. Il y a d'autres caractéristiques. Des règlements ont été établis concernant la vinification. Les types de vin, la limitation du rendement. C'est très important pour la qualité et la protection du produit.
Les viticulteurs ont également dû expliquer en quoi le climat de la vallée a une répercussion sur le vin qu'ils produisent. Ce seraient en fait les nuits fraîches d'automne que l'on retrouve ici qui permettent aux acides de se décomposer progressivement dans les raisins. Les arômes typiques de la région deviennent alors puissants en bouche. C'est tout ce savoir-faire que l'AOP récompense aujourd'hui. Pour Karl, c'est une belle reconnaissance, mais c'est aussi une promesse pour le futur.
Ce n'est pas uniquement une question d'identité, mais un label de qualité pour des vignerons débutants qui, dans le futur, voudront aussi se lancer dans une production de vin dans la région.
Une appellation apporte aussi son vent de notoriété qui pourrait augmenter les ventes. Karl Henkens produit chaque année 70 000 bouteilles sur 10 hectares. Le vin passe d'abord quelques semaines dans de grandes cuves en inox, puis est transféré dans des fûts en bois pour finalement arriver dans notre verre.
De Pinot Gris.
Ok, merci.
Je moet wat lucht mee naar binnen zuigen.
Tu dois aspirer de l'air à l'intérieur de la bouche et le goût explose. Viennent alors des notes subtiles, un peu acides. On appelle ça en anglais un crispy feeling sur la langue. Et cela vient typiquement des cailloux, des pierres près de la Meuse.
C'est donc cette combinaison de sol calcaire, de température particulière de la vallée et de vinification qui fait du vin Meuse-Vallée-Lingbourg un vin à part entière. Les viticulteurs devront respecter cette recette pour chaque millésime. C'est une exigence de l'Union européenne. Le vin devra être approuvé chaque année par un jury pour porter son étiquette AOP. Livre.
Allez, on s'évade tout au nord de l'Europe pour terminer avec un voyage photographique en Islande. Quatre saisons en Islande, c'est le titre de l'ouvrage signé Olivier Joly. Près de 300 pages de textes et de photos pour mieux appréhender ce pays qui connaît un afflux sans précédent de touristes. Alors pourquoi cette popularité soudaine? C'est la première question que Catherine Roland a posée à Olivier Joly.
Il y a eu une conjonction de phénomènes. Je pense que le premier, c'est la crise financière de 2008. Qui a été un coup très très dur pour les Islandais, qui a fait baisser très fort la couronne islandaise et qui a rendu le pays plus accessible financièrement pour les touristes. C'est la première chose. La deuxième et la plus importante, je pense, c'est l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010. Tout le monde en a entendu parler à cause des perturbations aériennes. Tout le monde a vu les images de cette éruption. Il se trouve que ce volcan est le plus accessible. On pouvait même y aller quasiment devant le cratère en 4x4. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que les compagnies aériennes, notamment la compagnie nationale islandaire, proposent aux voyageurs de s'arrêter en Islande sans surcoût sur un voyage transatlantique. Donc les gens vont de Paris à New York, ils s'arrêtent 3 jours en Islande. Ça a fait venir énormément de populations, notamment nord-américaines. Et ben ça a fait un effet de bouche à oreille. Instagram, je pense, a fini de populariser l'Islande parce que tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait faire de magnifiques photos en Islande. Et c'est devenu, je trouve ça un peu dommage, mais c'est devenu la capitale européenne du selfie.
L'attraction de l'Islande, n'est-ce pas due aussi à cette vague écologiste, cette prise de conscience aussi du danger du réchauffement climatique, et que c'est encore en Europe un dernier endroit sauvage?
Effectivement, l'Islande est globalement une terre totalement vierge, où la nature est omniprésente et extrêmement forte. Donc il y a ce phénomène-là, et il y en a un autre qui est peut-être plus inconscient, c'est que quand on se promène en Islande, tous les sens sont en éveil. L'œil est attiré par toutes les beautés environnantes, mais il n'y a pas que l'œil, il y a aussi le toucher, il y a aussi la caresse du vent, il y a aussi le bruit. C'est-à-dire que même quand on est dans le désert, il y a le chant des oiseaux, on ne les voit pas mais on les entend. On se sent plus vivant qu'ailleurs en Islande parce que tous les sens sont sollicités.
On entend que vous êtes un passionné. Justement, pour vous, quelle est la meilleure saison? C'est l'automne, vous avez l'air de le dire.
Oui, je sous-entends que ma saison préférée, c'est l'automne, le mois de septembre, puisque toutes les routes de l'intérieur de l'île sont encore ouvertes. Vous savez que ce qu'on appelle les Highlands, non pas les Highlands d'Écosse, mais les Highlands d'Islande, qui sont une zone extrêmement à la fois montagneuse et désertique, ces Highlands se sont fermés de la première neige, en général autour du début octobre, jusqu'au dégel complet. C'est-à-dire, elles rouvrent en général en juillet. Donc, pour profiter de ces merveilles naturelles, il faut voyager entre juillet et octobre. Et pour éviter le gros des voyageurs, il vaut mieux venir un petit peu après les vacances d'été, c'est-à-dire en septembre. Les aurores boréales reviennent en septembre, ce qui ajoute à la magie des lieux. Et on retrouve en septembre un isolement, une forme de solitude sans laquelle l'Islande n'est pas vraiment l'Islande.
Au moment de l'automne aussi, il y a un moment très emblématique de la vie locale. On appelle ça le retir, je ne sais pas exactement comment ça se prononce.
Très bien.
Voilà. Donc c'est la transhumance automnale des moutons, une très ancienne tradition. C'est même suivi à la télévision, un peu étrange, non?
Oui, c'est un moment extrêmement fort des Islandais, en tout cas de tous les Islandais du monde rural. C'est une coutume qui a des siècles d'existence. Début juillet, tous les fermiers relâchent leurs bêtes dans les hautes terres, puisque l'herbe est un peu plus grasse, elles peuvent grandir et s'épanouir pendant quelques mois loin de la ferme, et ils doivent aller les rechercher au moment où, juste avant les premières neiges. Curieusement, c'est un calendrier lunaire très ancien qui détermine la date à laquelle ils vont les chercher, c'est autour du 20 septembre. Et là, dans toutes les régions de l'île, les fermiers quittent leurs exploitations qui sont en général sur la bande côtière et montent dans les montagnes avec des chevaux, énormément de chevaux, puisqu'il faut compter pas loin d'une dizaine de chevaux par cavalier, puisqu'ils partent pour une semaine, et que c'est une tâche exténuante pour les bêtes. Et ils vont dans les moindres vallées, les moindres sommets, pour aller chercher toutes les bêtes. Ils ont un homme qui s'appelle The King of the Mountains, le roi des montagnes. C'est un nom un peu désuet, mais c'est quelqu'un qui a le respect de tout le monde et qui décide comment s'organisent les équipes. Il envoie les débutants avec les gens plus expérimentés, il envoie les jeunes très bons marcheurs sur les sommets tout en haut. Et chacun ramène ses bêtes, qui sont ensuite mis dans des petites carrioles et amenés vers les exploitations.
Et donc tout ça, c'est suivi par un programme télé ?
Non, on s'y intéresse chaque année. Il y a des petits sujets là-dessus. Il y a un programme télé, en revanche, qui a suivi quelque chose qui est un petit peu différent, mais c'est l'agnellage. C'est-à-dire que pendant une nuit entière, la télévision a montré dans différentes fermes, avec des webcams, les agneaux venir au monde. Et ça a passionné les Islandais, ça a fait une des meilleures audiences de l'année. Pour prouver à quel point les gens sont encore très liés à ce qui a fait depuis toujours la vie et l'économie de ce pays. Pour en revenir au Yétir, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a connu un regain de popularité après la crise financière. Parce que les Islandais qui s'étaient un petit peu laissés aller, ils vivaient dans une espèce de bulle d'illusion. Ils prenaient un avion pour aller à Glasgow faire la fête, comme vous prenez votre voiture pour sortir boire un verre avec des amis. Et ben ils se sont rendus compte que finalement tout ça était un peu illusoire, un peu superficiel. Et ils sont revenus à des choses beaucoup plus anciennes. Et on a vu affluer les volontaires autour du Rietir, c'est-à-dire que les éleveurs demandent à quelques bergers professionnels de venir, mais aussi à tous les volontaires qui veulent apporter leur envie d'aider et leur envie de se retrouver dans cet environnement sauvage, là où s'est créé finalement l'âme de l'Islande.
Olivier Joly, auteur de 4 saisons en Islande aux éditions Favre, sélection de photos à retrouver sur notre page Facebook. Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition, à réécouter sur RFI.fr à la page émission et sur votre téléphone portable grâce à l'appli Pure Radio. À demain.